En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes, ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui. Bonjour, c'est Karine Claire, vous écoutez Les Lionnes, un podcast sur les femmes qui ont fait ou qui font bouger la Belgique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actrices avec Jeannine Godinas, France Bastoun et Leila Charani.
Mon métier, c'est jouer, raconter une histoire à des spectateurs qui viennent voir un spectacle. En sortant de notre journée de travail, on est applaudi. Les gens payent pour venir nous voir. C'est quand même incroyable.
Est-ce que quand on ne joue plus, on est encore une actrice ?
Nicole Oliver.
Non. C'est très difficile. C'est une question super difficile, mais... Je pense qu'on est actrice ou comédienne quand on nous offre la possibilité de nous exprimer, sinon on s'éteint. Et c'est ça le drame, en fait. C'est ça le drame de ce métier, c'est que les possibilités sont faibles.
Manuela Servet.
Oui, je pense que c'est juste et que moi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que j'ai évidemment envie de dire oui, toute ma vie, je serai actrice, je le sens, c'est en moi, le poison est en moi et l'antipoison en même temps. Donc j'ai appris à gérer toutes ces choses-là, mais en effet, il faut pouvoir avoir la possibilité d'être professionnelle dans notre métier.
Tu ne peux pas, tu peux pas être actrice si tu n'as pas un public. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être actrice dans ta chambre. Ça n'existe pas. C'est pas possible.
Jacqueline Beer,
Sophie Sénéco,
Véronica Mabardi,
Melissa Windahl,
Marielle Ostrowski,
Christelle Delbrouck,
Pierre Botson,
Suzy Fall,
Sarah Lefebvre,
Martine Wilke,
Rosalia Cuevas,
Muriel Legrand,
Laurence Warin,
Christelle Pedrinelli,
Anne Sylvie,
Erika Sainte,
Sophia Lebout,
Joe Dezeux,
Valérie Laurence
Damelio, Stéphane Excoffier,
Héloïse Jadoul,
Julie Diroisin,
Verle Battens,
Nicole Oliver,
Ingrid Eiderscheid,
Géraldine Frippia,
Florence Ebeling,
Magali Pinglot,
Carole Trévoux.
Bienvenue sur Les Lionnes. Nous allons aujourd'hui aborder la deuxième partie de ces épisodes sur les actrices de théâtre. Jeannine Godinas, rebonjour.
Bonjour.
France Bastoun, rebonjour.
Bonjour.
Leila Charani, bonjour.
Bonjour.
Quel est le verbe qui vous drive? Quel est le verbe qui est votre moteur?
Travailler.
France?
Danser.
Leila?
Moi, j'aurais dit jouer.
Jouer.
Désespéré jouer. J'attends au moins quelques garanties, je prends des risques.
Qui est là? Othello?
Une femme dans un théâtre contre un arrêt de la couronne.
Silence!
Désormais, jouer en public ne sera plus illégal.
Pour Madame Hughes?
Pour toutes les femmes.
Mais depuis quand existe-t-il des actrices? Alors, dans l'histoire du théâtre occidental, les femmes ont longtemps été exclues de l'interprétation théâtrale. On sait que dans l'Antiquité grecque, les rôles féminins étaient joués par des hommes qui portaient des masques, et les femmes participaient à certaines formes de divertissement, comme jongleuses, acrobates, danseuses, au sein des chœurs religieux. À Rome, les acteurs n'étaient pas très bien considérés. Ils étaient souvent recrutés parmi les étrangers, les esclaves et les affranchis. Les femmes, quant à elles, pouvaient toutefois apparaître dans des spectacles de mime, qui étaient des farces légères et souvent grivoises. Au début du christianisme, en particulier en France, le théâtre va être considéré comme démoniaque et les acteurs sont excommuniés. Mais au Xe siècle, une abbesse germanique nommée Rodzivita de Gandersheim écrivit des drames chrétiens considérés comme les premières œuvres du théâtre médiéval. Au XIIIe siècle, le théâtre va prendre de l'ampleur avec l'émergence de troupes itinérantes qui vont commencer à jouer sur les places publiques. Et au fil des siècles, de nouveaux genres vont apparaître, notamment des farces et des mystères, qui mettent en scène des récits de passion ou de vie des saints. Alors la plupart du temps, ces histoires sont interprétées par des hommes et de jeunes garçons. C'est seulement à partir du XVIe siècle, en Italie, que les femmes vont commencer vraiment à jouer sur scène. D'abord dans des mimes, puis dans la commedia dell'arte, un nouveau genre théâtral qui renoue avec l'Antiquité. C'est Catherine de Médicis, qui était une grande amatrice de la commedia dell'arte, qui installa en 1577 des comédiens italiens au théâtre de l'Hôtel du Petit Bourbon à Paris. Et les rôles féminins furent interprétés par des actrices. En Angleterre, dans le théâtre élisabétain, connu comme l'âge d'or shakespearien, les femmes sont également interdites sur scène. Ce sont les hommes qui jouent les rôles de Juliette, d'Ophélie et de tous les personnages féminins de Shakespeare. En effet, le travestissement est normal, autant en tragédie qu'en comédie. Et c'est seulement en 1660, quand l'interdiction des représentations théâtrales qui avait été de mise depuis 1642 est levée partout en Angleterre, que les femmes auront enfin accès au métier de comédienne. On écoute l'acteur et poète anglais Thomas Jordan qui explique au public dans un prologue d'Othello que le rôle de Desdémone va être confié à une femme pour la première fois.
Mais allons droit au but. En ce temps de changement, nous voulons civiliser la scène. Nos femmes ne sont pas crédibles. Elles ont une telle carrure que vous les prendriez pour des gardes déguisées. Car pour être franc, les hommes qui jouent des adolescentes de 15 ans en ont 30 et 50.
En France, ce n'est qu'en 1603, à l'occasion d'une tournée théâtrale d'une troupe italienne, qu'une femme, Isabella Andreini, obtient le droit de monter sur scène. Mais les actrices ne sont pas très bien vues dans la société française, en témoigne Bossuet en 1694, dans ses Maximes et réflexions sur la comédie.
Quelle mère, je ne dis pas chrétienne, mais tant soi-disant peu, n'aimerait pas mieux voir sa fille dans le tombeau que sur le théâtre. Les comédiennes, que leur sexe avait consacré à la modestie, dont la faiblesse naturelle demandait la surretraite d'une maison bien réglée, voilà qu'elles s'étalent d'elles-mêmes en plein théâtre avec tout l'attirail de la vanité, comme ces sirènes dont parle Isaïe qui font leur demeure dans le temple de la volupté et qui reçoivent de tous côtés, par les applaudissements qu'on leur envoie, le poison qu'elles répandent par leurs chants.
On voit à quel point les actrices ont dû longtemps faire face à une stigmatisation et à un mépris de la part de la société. Les critiques et les préjugés ont persisté pendant des siècles, les considérant comme des femmes légères, des courtisanes ou des marginales. Sarah Bernhardt, l'une des actrices les plus célèbres de son époque, est un exemple frappant de cette dichotomie. Elle a été adorée par le public et acclamée pour son talent, mais également critiquée et dévalorisée par certains membres de la société. Catherine Autier, dans son livre « Femmes d'exception, femmes d'influence », nous parle de la condition des actrices jusqu'au début du XXe siècle. Elle nous explique que les actrices étaient vraiment, vraiment sous-payées, bien plus encore que les acteurs, qui étaient pourtant déjà très mal payés. Les Goncourt rapportent en 1854 dans leur journal que Hilde Brunner, directeur des délassements comiques, dirige non pas un théâtre, mais un bordel.
C'est tout simple. Je ne donne à mes actrices que 50 à 60 francs. Et j'ai 30 000 francs de loyer. Je peux leur donner que ça. Les acteurs ont guère plus. Ce sont tous des macros ou des tapettes. Souvent, une femme vient me trouver en disant que les 50 francs, c'est pas assez, qu'elle va être obligée de raccrocher, de se faire des hommes dans la salle à 5 sous. Ça me regarde pas. J'ai 30 000 francs de loyer, moi.
C'est vrai qu'au XIXe siècle, beaucoup d'actrices n'avaient pas d'autre choix que de se prostituer. Une autre citation du journal des Goncourt nous montre une actrice désespérée disant « Nous sommes le 23. 400 francs à payer le 30 et mes règles ». Il est vrai que les salaires étaient si ridicules que certains journalistes appelaient ça des cachets fictifs. Un journal parla même de « traite des planches ». Il est clair que les directeurs de théâtre utilisaient la prostitution des actrices pour attirer du public. D'ailleurs, dans son livre « La capitale de l'amour », Lola González-Quijano explique que ces pratiques étaient liées à un système de corruption où les actrices étaient même utilisées pour obtenir des avantages. C'était tout à fait courant pour les hommes de l'époque de payer pour entretenir une artiste, car ça faisait bien en société. Donc on voit en tout cas que jusqu'au début du XXe siècle, être actrice équivalait souvent à être perçue comme une femme aux mœurs douteuses, malgré l'admiration et le désir qu'elle suscitait. Bon, heureusement, au fil du temps, les mentalités vont évoluer et la profession d'actrice va gagner en respectabilité et en professionnalisation. Les actrices vont contribuer à repousser les limites, à redéfinir les rôles de genre dans le domaine artistique et aussi au niveau de la représentation de l'image de la femme. Mais des disparités persistent encore aujourd'hui, avec une représentation inégale des femmes dans les postes clés de théâtre et aussi encore parfois avec des disparités dans les cachets. Pour conclure, on peut dire que la figure de l'actrice dessine les mutations culturelles de notre société occidentale. De la courtisane légère à l'artiste accompli, des vrais artistes interprètes ont émergé. Isabelle Huppert disait en 2010
« Être actrice, c'est transformer en excellence ce qui ne l'était pas. La fragilité en force, la timidité en assurance, et composer simultanément avec tout cela. »
Dans l'épisode 1 sur les actrices de théâtre, nous étions partis à la découverte de ce métier. Comment ça se passe sur le terrain ? Le processus des répétitions va démarrer. Alors comment ça se passe en général, les horaires ? Alors je sais que ça peut varier d'un metteur en scène à l'autre, mais on répète toute la journée ou
Oui. 10h, 17h, 18h, ça dépend du metteur en scène. Jusqu'à la fin où là on passe en service du soir. Donc là c'est plutôt.
C'est quoi un service ? Un service, vous pouvez expliquer ?
Un service, c'est 3 heures.
Ça dépend à quel metteur en scène. Il y en a qui font 4. Hein.
Ouais. Oui. Donc un service, c'est 3 ou 4 heures.
En général, on fait 2 services par jour, donc matin et après-midi.
Mais c'est vrai qu'il y a ça, on travaille en journée pendant tout un temps. Et puis la dernière semaine, on passe après-midi, soir et puis soir. Il y a cette espèce d'acclimatation à l'horaire du soir, puisqu'on joue quand même le soir principalement. Donc,
et vous répétez combien de temps pour un spectacle ?
6 semaines, je dirais, en général, dans un schéma classique.
6 semaines ?
Ça dépend.
Ce qui est super, c'est quand on peut répéter en amont, pendant 15 jours, 3 semaines, puis on arrête, et puis on reprend des répétitions. Ça, c'est un peu... c'est le luxe.
Pour en revenir un petit peu aux époques différentes, au Théâtre des Galeries, quand j'ai commencé, on répétait 8 jours.
Mais non.
C'était plus, alors peut-être de l'ordre de la mise en place. On disait, voilà, tu vas de là à là ou
On ne commençait pas à faire de la dramaturgie, c'est ça. Évidemment. On indiquait quand même des choses, mais enfin, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça que ça allait plus vite, je présume. Enfin, ouais. En tout cas, c'était 8 jours. Mmh. Et moi, je me souviens avoir joué Andromaque en 8 jours.
Moi, je suis allée jouer à Montréal cette année et je discutais avec une amie montréalaise qui, elle, me disait qu'il créait en 120 heures. Oui, donc 120 heures, c'est à peu près 15 jours, mis bout à bout. J'avais été un peu effrayée par comment on peut créer un spectacle en 120 heures, mais bon, ils le font, quoi.
Si vous saviez ce qui m'a arrivé...
Mais non, pas vous, vous êtes pas encore là, vous.
Ah bon, mais on le dit, oh.
Tata m'avait bien dit que vous étiez un charlatan.
Ah oui, monsieur, je ne vous permets pas, j'ai mes diplômes.
J'aurai ma sacoche, là.
Mais oui, allez.
Je suis le docteur Stéthoscope.
C'est bon, tout ça, c'est très bon, c'est parfait. Continuez comme ça. Allez, enchaînez.
Quant à votre tata, depuis qu'elle est revenue des mers de Chine, elle a pété les plombs.
J'ai perdu la tête.
Si vous m'interrompez tout le temps, je me retire. Vous trouverez quelqu'un pour réciter.
Ouais, je joue, monsieur. Hein ? Bon, allez, vous êtes entré, là, sûr. Je peux vous
faire... Pourquoi est-ce qu'on dit toujours la dernière semaine, hein, c'est toujours un peu la panique, et on dit toujours, il manque toujours une semaine.
Il manquera toujours une semaine, même si.
Oui, mais c'est ça.
Pendant 6 mois.
C'est ça. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans le processus créatif ?
Tu feras aller plus loin.
Oui, et puis c'est souvent la rencontre avec le réel espace dans les derniers temps. On n'a pas toujours l'occasion de répéter dès la première.
Donc ça, c'est important. Donc les répétitions n'ont pas lieu sur la scène.
Bah, en tout cas, c'est souvent
salle
le cas.
De répète.
Oui, oui, c'est en salle de répète où on crée plus ou moins quelque chose qui ressemble à l'espace, mais ça n'a rien à voir avec le théâtre dans lequel on sera. Donc je crois qu'il y a ce moment où on découvre l'espace,
la lumière, la scéno, les costumes arrivent souvent plutôt sur les dernières semaines, donc ça se concrétise dans l'image aussi sur la fin. Et donc
et dans les personnages aussi qu'on doit défendre, il y a toujours une petite zone d'ombre, un petit moment qui reste faible, qu'on aime moins, qu'on est plus fragile, qu'on n'a pas encore trouvé, peut-être. Et puis, il y a aussi ce que nous demande le metteur en scène. On n'est pas toujours d'accord avec ce que le metteur en scène nous demande. C'est-à-dire qu'on peut avoir des points de vue très différents. Alors bon, chacun a sa personnalité. Mais moi, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire aussi. Mais j'aime bien... C'est quand même lui qui dirige le metteur en scène. C'est son idée à lui, c'est son option. Donc, il faut le respecter. Et le moment que je trouve le plus intéressant dans le travail, c'est la nuit, quand je rentre chez moi et que je dois faire ce que le metteur en scène me demande pour le lendemain. Mais je veux faire moi ce que j'ai envie de faire moi. Et je passe la nuit à faire les deux. Et trouver le moment, la chose qui va faire que je vais lui faire plaisir, mais que je vais me faire plaisir à moi aussi. Parce que si on ne se fait pas plaisir, ce n'est même pas la peine de faire ce métier-là. Et voilà. Et ça, c'est très, très, très passionnant. C'est très fatigant. C'est pour ça, quand tu vous avez demandé quel est le verbe, que je dis travailler, c'est à ce moment-là que je pensais. C'était ce travail-là à faire pour faire un équilibre entre ce qu'on veut faire soi et ce que le metteur en scène veut, parce que c'est quand même lui qui dirige.
J'ai des problèmes avec la pièce.
J'arrive plus à comprendre le personnage.
Dis juste la réplique, Olivier.
Non.
Tu écris pas comme les gens causent.
Tu la fermes
et tu lis, je te préviens.
Non, ne parlez pas. J'essaierai pas de raccourcir mon rôle.
Tu vas lui ajouter des nouvelles répliques ou je te cloue les rotules à la piste de danse.
J'abandonne. Pas un mot. Ne parlez pas.
Je devrais peut-être partir et me faire soigner dans une maison de repos. Et ensuite...
Ne me dites pas que vous continuez à penser que le monde tourne autour de... Vous.
Alors, en ces dernières semaines, c'est souvent quand même très stressant. Enfin, en tout cas, ça peut l'être. Est-ce qu'il y a des cauchemars de l'acteur?
Oui.
Vous pouvez me raconter?
Le texte qu'on ne connaît plus.
Vous arrivez sur scène et vous jouez dans une pièce?
Une autre pièce. On a étudié, répété quelque chose et ce jour-là, ce n'est pas ce spectacle-là. Il y a le fait de ne pas avoir son costume, d'arriver nu. oui, c'est réellement des moi, je rêve très souvent de choses comme ça.
Vous aussi, Janine?
Oui. La perte du texte, oui, c'est...
Se retrouver devant le public sans mot.
Ou alors me tromper de salle. C'est un rêve qui est très récurrent chez moi. Je me trompe de théâtre, en fait.
Ah oui. Moi, c'est plutôt de spectacle. Ah oui. Je dois jouer Marivaux et en fait, je suis Hermione dans le conte d'hiver, quoi.
Voilà, moi, j'ai
quelque chose qui ne va pas.
Je rêve plutôt que j'ai travaillé pendant 3 mois un truc et que ce n'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que les gens sont là. La panique.
Alors, le jour de la première, comment est-ce que vous vous sentez?
Mais en général, sur ces dernières semaines, il y a le besoin d'avoir un regard et des nouvelles oreilles. Donc, en général, quand la première arrive, si on s'est à peu près bien préparé, il y a un besoin de sortir de cet entre-soi, de la répétition, et de commencer enfin ce truc de partager avec des gens qui ne connaissent pas l'histoire, pour voir l'impact, comment ils vont le vivre. Et donc... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt soulageant et ah, enfin quoi.
Oui, moi, je suis d'accord avec le mot le soulagement, mais par contre, je dois reconnaître que le plaisir d'être avec le spectateur et la spectatrice arrive toujours un petit peu après. J'ai besoin de 2-3 représentations pour vraiment y goûter. Avant ça, c'est voilà, on y va, mais j'aime bien l'idée de la série, enfin qu'on soit au-delà du one shot quoi.
Valérie Beauchaud.
Est-ce que j'ai le trac? Oui, mais raisonnablement. J'ai un trac assez positif, c'est-à-dire que je suis très excitée, j'ai mal au ventre, je peux être fébrile, mais en même temps j'ai hâte d'éprouver ça et de me sentir vivre. Et ce que je viens de dire n'est vrai que le jour de la première. Hein. Une fois que c'est passé, j'ai plus le trac, bizarrement.
Ingrid Edersheid.
J'ai fort le trac, moi. Donc, les exercices de respiration servent à ralentir la respiration, enfin voilà, à être bien ancré, justement, à diminuer le trac. Mais bon, je prends aussi une petite panoplie de caché, on va dire, aux plantes. Voilà, je prends du rhodiol, ça c'est dès le matin, et puis du gelsémium, voilà, des granules homéopathiques contre le trac et le tremblement. Oui, parce qu'en ayant le trac, je tremble et j'ai les mains moites aussi. Voilà.
Nicole Valberg.
Oui, j'ai toujours le trac, plus ou moins fort, mais il est toujours présent. Même maintenant.
Sylvie Landeut.
Oui, ça m'arrive d'avoir le trac, mais en fait, de moins en moins. Quand j'ai la chance de jouer, je me dis que c'est un privilège et donc il n'y a pas mort d'homme, quoi. J'essaie que ce soit un vrai plaisir, et c'est un vrai plaisir quand je rencontre le public.
Valérie Lemaître.
En général, j'ai le trac toujours à la première et après ça passe.
Rosalia Cuevas.
Le trac est venu petit à petit. Au début, j'avais, si tu veux, l'insolence et l'insouciance de la jeunesse. Mais quand le trac est venu, alors là, il ne m'a plus quittée.
Alors là, je suis obligée d'en revenir à mon âge parce que je n'ai plus du tout aujourd'hui ce que j'ai connu avant. Aujourd'hui, j'ai peur d'avoir des trous. Mais des trous, pas parce que je ne connais pas mon texte, parce que mon texte, je le connais très bien, mais des trous subis. Subis. Le trou arrive et je ne sais pas où je suis. Voilà. Et ouais, c'est dû à l'âge. Et donc, c'est très inquiétant. Donc, j'ai peur de ça. Sinon, je ne suis pas vraiment stressée. Non, je suis contente. Je me dis, enfin, voilà quelqu'un. On va enfin pouvoir dire notre affaire aux autres. Pas toujours au même.
Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux.
Je vais faire ce que je veux. Non, pas ça, parce que je suis respectueuse du travail de metteur en scène. Mais oui, non, je suis contente. On va enfin faire ce pourquoi on a décidé de faire. Mais il me reste cette chose-là qui est très, très handicapante. Très handicapante.
Vous avez des rituels de première ? Ou des rituels avant de rentrer sur scène ?
En général, avant de monter sur scène, je fais des exercices de respiration. Je fais pas mal de méditation aussi. Je ne joue jamais sans avoir retraversé tout mon texte et tous les mouvements et les gestes.
J'ai gardé ce rituel de gratitude avant d'entrer en scène. Et je dis merci. Faites que je sois une vraie et une grande comédienne. J'ai très vite enlevé le grand qui me semblait un peu prétentieux.
Je n'ai pas de rituel particulier, si ce n'est peut-être toucher du bois avant d'entrer en scène, ce genre de choses.
Bah déjà, donc, revoir toujours tout mon texte dans la journée. Enfin, voilà, j'ai des exercices physiques que je fais, toujours les mêmes. Et des exercices de respiration. Puis des petits exercices d'articulation aussi que je fais en me massant le plexus solaire. Enfin voilà, des trucs comme ça.
Je m'échauffe en fait avant le spectacle. J'échauffe mon corps, ma voix. Et si je le fais pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose avant de monter sur scène.
Oh oui, j'ai des rituels avant de monter en scène. Mais ils varient chaque fois.
À chaque spectacle.
Dans le spectacle que je fais actuellement, mon rituel c'est d'être derrière les coulisses, d'entendre le public arriver et pendant ce temps-là, de faire des exercices de respiration.
Vous avez des rituels de première ? Ou des rituels avant de rentrer sur scène ? Juste avant de rentrer sur scène ?
Oui.
C'est quoi ?
On y va, Lucienne. Lucienne, c'est ma maman. Et je ne peux pas rentrer sans dire on y va, Lucienne. Voilà. Et ma patte de biche. J'ai une patte de biche qui est mon petit vasseur. Je suis sûr que si j'ai oublié ma patte de biche, ça ne va pas le faire. Quoi. Et c'est tellement ancré en moi que si je ne l'ai pas, ça ne le fera pas. Voilà.
Moi, je crois que je suis un peu perverse parce qu'en fait, je me mets en place des rituels que je m'amuse à déjouer.
Donc, ça, c'est fait, très pervers.
Ouais, c'est donc une espèce de... Oui, voilà, disons que je dois avoir monté, je dois faire quelques salutations au soleil. Et puis, en cours de série, je me dis, allez, aujourd'hui, je le fais pas, quoi. Voilà, c'est à cet endroit que je suis, que j'ai mon rituel.
Mais moi, j'ai aussi un peu ce truc de... J'ai peur que le retour du même tous les jours finisse par me mettre dedans. Donc, je prépare plutôt un anti-rituel. C'est-à-dire que je fais chaque jour en fonction... Ouais. De comment je me sens. Donc il y a des jours, ça va être s'échauffer pendant une heure, il y a des jours, ça va être arriver à la dernière minute, mettre le costume et y aller. Enfin, c'est vraiment... je préfère justement ne pas trop gérer ce moment. Ouais. Quoi.
Et juste avant de rentrer sur scène ?
Respirer. Moi, je crois que je suis avec ma... Comment ça respire et essayer de me dire tranquille. Souvent, j'ai une petite montée de stress à ce moment-là et je pense toujours au moment après, où ce sera fini. Je me dis, t'inquiète, en fait, ça sera fini à un moment donné, donc...
Les yeux de mon partenaire ou de ma partenaire, ce contact-là.
Est-ce qu'après la première, le metteur en scène intervient encore ? Est-ce que parfois, il fait encore des notes ou...
Ça dépend vraiment des metteurs en scène.
Moi, j'ai quand même l'impression que le metteur en scène, quand il revient, a toujours quelque chose à dire. Positif, négatif, mais en tout cas, y a le petit moment du bilan. Alors, pour chez certains, c'est plus fréquent, chez d'autres, moins. C'est une nourriture. Et c'est d'ailleurs intéressant quand ça reste vivant. Et que donc le metteur en scène ou la metteuse en scène soit en respiration aussi avec l'évolution du spectacle. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller complètement ailleurs que ce à quoi on s'était préparé, mais qu'il puisse rebondir sur des choses qui ont évolué avec le public. Moi, je trouve que là, c'est faire preuve aussi d'ouverture de part et d'autre.
Et moi, j'aime bien aussi les notes. Bourdet, metteur en scène français où j'ai travaillé, là, il faisait des notes jusqu'à la dernière. Donc, des notes qui ne servaient plus. Puisque on finissait de jouer, il les faisait quand même. Alors, où il disait « Tu es enfin parvenu ?»« Enfin, tu es parvenu ?» Enfin, un truc rigolo. Mais il faisait des notes jusqu'à la dernière. Et je trouve ça bien. Parce que, comme tu dis... le spectacle change un petit peu, peut changer un petit peu avec le public. Et puis à force de le refaire, on peut dévier, on peut changer les choses. Et c'est bien que le metteur en scène ou voit les différences qui se sont opérées et il trouve ça bien, ou il dit attention. Ça,
mais qu'il continue à vivre avec nous.
Qu'il continue à être avec nous, je trouve ça très très bien.
Qu'est-ce que vous ressentez quand les gens applaudissent ?
Du bonheur, voilà.
Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est pour ça qu'on a un peu fait ce métier.
Peut-être
aussi.
Peut-être comme si on recevait une énorme dose d'amour d'un coup, là. Tout le public qui rend peut-être des choses qu'ils ont reçues. Je ne sais pas comment décrire ça.
Voilà, est-ce que c'est parce qu'on est, en tant qu'être humain, toujours un peu avide de reconnaissance, peut-être ? Mais c'est le merci des gens pour le boulot qu'on a fait, en fait. Donc ça fait beaucoup de bien.
Qu'est-ce qu'on ressent ? Ça fait chaud, ça remplit.
Quand les gens applaudissent, j'ai l'impression d'être aimée. C'est un vrai cadeau et ça me rebooste. Ça me redonne confiance en moi. C'est un moment de vrai partage, de libération. Et pour eux... Et pour moi, en fait. Oui, c'est un moment d'union.
Quand les gens applaudissent, c'est du miel qui coule sur mes épaules. Voilà, je reste une petite fille qui a besoin de...
c'est de l'amour.
J'avais une copine qui regardait par le petit trou du rideau avant la représentation. Elle disait toujours, je regarde parce que je vois des gens qui m'aiment. Oh, j'ai jamais réussi à me dire ça.
Les applaudissements, ça fait quoi ? Ça fait du bien, évidemment, parce qu'il y a eu un travail à l'arrière. Donc, oui, ça fait du bien que les gens soient contents. On est content du travail bien fait, d'avoir mis leur vie entre parenthèses. Oui, c'est ça, une satisfaction, en fait.
Peut-être un peu d'amour.
Qu'est-ce que ça vous fait, une salle qui applaudit ? Qu'est-ce que vous avez comme image quand vous arrivez au salut, à la première, de sentir tous ces gens qui sont... On a parlé beaucoup de partage, de cette sorte de communion avec le public. Qu'est-ce que vous ressentez ?
J'avoue que moi, les applaudissements, c'est pas du tout le moment que je préfère. J'aime tout ce qui se passe avant. J'aime sentir l'énergie du public, leur rire... voir leur sentir leur émotion, mais le moment des applaudissements, ça pourrait s'arrêter avant pour moi.
Janine,
je n'aime pas le salut.
Voilà. Ok.
Moi j'aime bien. Moi je trouve que je me dis toujours c'est complètement incroyable de se dire que je peux essayer de faire rentrer 100 à 200 à 300 paires d'yeux à l'intérieur de moi pendant 2 heures. Quand, j'y repense souvent après quand je suis dans mon lit, je me dis mais j'ai vraiment fait ça. Je trouve ça complètement fou. Et j'ai quand même une anecdote assez marrante, c'est que quand j'ai fait la reprise de rôle, parce que donc j'ai fait une reprise de rôle pour le Raoul Collectif, et on a fait une répète, une mise en place 2 heures avant. J'ai été chercher mon costume et je suis montée sur scène et on a joué. Mais sauf que c'est un spectacle que je joue depuis très longtemps, puis ils sont connus. Ce qui fait qu'il y a on était au Théâtre National, il y a une standing ovation, donc 600 personnes qui se sont levées pour applaudir. Et là, je me souviens m'être dit. Ah, c'est marrant parce que moi je débarque et en fait je sens qu'ils applaudissent aussi un travail, qu'ils applaudissent des gens qui sont là depuis longtemps. Et arriver et prendre ces applaudissements, je me disais, mais ils sont pas pour moi, quoi. C'est ça, ils sont un peu un truc comme ça.
Mais en fait, ces moments-là, on les a parfois aussi pendant le spectacle. Je peux raconter une petite histoire. C'était donc Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Et à la toute fin, Dorante demande pour la énième fois à Sylvia « M'aimez-vous donc ?» Enfin, et elle, comme dans tout bon Marivaux, alors qu'elle pense, elle dit non. Et je me souviendrai toujours, c'était une scolaire à Charleroi, qui est parfois réputée quand même pour ne pas avoir les scolaires les plus faciles. Il y a eu, mais d'une seule voix, tous ces adolescents qui ont répondu après le non, mais si. Et ça, voilà, ça c'est le plus beau des applaudissements pour
ouais,
moi.
Ouais, vraiment un échange.
À propos d'anecdotes, tu parles des scolaires. Je me souviens d'une scolaire à Namur où je jouais Iphigénie. Et au moment, elle dit « Je donne mon corps à la Grèce ». Et il y a un gamin dans la salle qui crie « Donne-le à moi plutôt !»
Est-ce que jouer une longue série, ce n'est pas lassant ?
Non.
Tous les soirs, la même chose pendant 2 mois ?
On ne peut pas dire non plus qu'en Belgique, on connaisse les mêmes séries qu'en France, où ils jouent parfois à Paris pendant 1 an, 2 ans.
Oui, on a joué le Saperlot 2 ans.
Et t'en avais pas marre ?
Non.
Bah non.
Non, moi je trouve que c'est justement ça. J'ai l'impression qu'un spectacle, il est plus fait pour être joué et vivre devant des gens que pour être répété. Enfin, moi je préfère beaucoup plus le moment de la série que le moment de la répète. Mais j'ai l'impression que... Enfin, après, ça dépend avec... J'imagine avec quel partenaire. J'imagine qu'avec un... Avec
ça
une
dépend,
équipe difficile, ça doit être
quelqu'un
compliqué.
Quelqu'un qui déteste.
Ça arrive, doit être mais...
ça arrive évidemment, oui, j'imagine.
La
que
fameuse
dans,
question du baiser que tu donnes au gars que tu supportes pas.
Oui, oui, voilà, comment est-ce qu'on fait ça alors?
On ferme la bouche.
Est-ce qu'on se lave les dents avant déjà?
Oui. Ça de toute façon, avant de jouer, qu'on embrasse ou pas, ça fait partie
du rituel.
Ça fait partie du rituel.
Du rituel hygiénique, minimum.
Moi, je ne peux plus en parler parce que ça ne m'arrive plus.
quelle est votre journée type quand vous jouez Alors, la journée, je ne vous demande pas de raconter ce que vous faites la journée, ça c'est votre intimité, mais vous arrivez à quelle heure au théâtre? Et comment est-ce que vous mangez avant, après
Alors, c'est assez fluctuant parce que moi, j'aimerais parfois avoir la chance de pouvoir décider de ce que je fais de ma journée avant de jouer, surtout des spectacles lourds, longs, enfin... mais ça ne se passe pas souvent comme ça, parce qu'on ne peut pas toujours organiser son temps comme on veut, donc parfois on répète toute
un
la
autre,
journée avant
un autre spectacle.
Mmh. Parfois on est en studio, parfois on donne cours, parfois voilà. C'est... Moi, si je peux, j'aime bien arriver relativement... je dirais 1h30 avant la représentation.
Ouais. Faut pas arriver trop tôt non plus quand on arrive 3 heures avant. Après, t'es dans le théâtre vide, tu t'ennuies un peu. C'est entre 2 heures et 1 heure avant, quoi.
Et toi?
Oui, moi aussi, 1h30.
Et vous mangez avant?
Moi,
pas trop.
Moi, non.
Non plus.
Non.
Non, pourquoi?
Parce que la digestion arrive pendant qu'on joue et ça, c'est pas bon du tout.
Le petit coup de pompe juste au démarrage. Est-ce que c'est facile de concilier la vie personnelle et la carrière d'actrice? Alors, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Quand on dit on est actrice, ah, ça va, et comment tu fais? Enfin, voilà, est-ce que c'est compliqué?
Moi, je crois que pour tout métier, c'est difficile ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas spécialement le métier d'actrice. Je crois qu'il y a... Voilà, il faut sûrement être inventif dans sa vie quand on a des enfants pour savoir comment, avec les horaires, comment s'organiser. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls.
Oui, il faut réinventer sa vie. Mais si on explique très bien aux enfants, par exemple, comment ça se passe, les enfants, ils sont très prêts à accepter ça. Et comme on a tendance à se culpabiliser, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est là, on en remet un peu plus. Donc, ils adorent. Et donc...
Je vous propose de retrouver à présent Rose, 16 ans et demi, qui va nous parler de Suzy Falk et qui donnera également la parole à Nicole Wahlberg et à d'autres actrices qui évoqueront les comédiennes belges qui les ont inspirées.
La bulle de rose.
Suzy Falk est une de nos grandes comédiennes belges. J'ai eu la chance de la rencontrer au Festival d'Avignon quand elle jouait avec ma maman dans Le silence des mers de Pietro Bizzuti. Mais malheureusement, je m'en rappelle pas. J'étais toute petite. mais d'après tout ce que j'ai entendu sur elle, c'était un sacré caractère. Née en 1922 à Düsseldorf, Suzy appartenait à une famille juive qui, face à la montée terrifiante du nazisme, a déménagé en Belgique en 1934. L'ombre du conflit mondial n'a pas tardé à toucher sa famille. Son père s'éteint d'une crise cardiaque en 1939, et lorsque les nazis déferlent sur la Belgique l'année suivante, ses frères se réfugient en Grande-Bretagne, tandis que d'autres membres de sa famille gagnent les États-Unis. Suzy et sa mère restent à Bruxelles, entravées par des soucis financiers. La vie sous occupation a amené Suzy à porter l'étoile jaune. Elle travaillait à l'hôpital israélite d'Ixelles, tout en suivant des cours de théâtre. Puis est venu ce sombre soir d'octobre 1943, où elle et sa mère ont été arrêtées par la Gestapo. Heureusement, grâce à de faux certificats médicaux, elles retrouvent leur liberté. Après la guerre, en 1946, Suzy entame une carrière théâtrale remarquable qui durera 7 décennies. Elle foule les scènes des théâtres les plus renommés, tourne pour le cinéma et la télévision et collabore avec des figures prestigieuses telles que Hugo Claus et Raymond Jérôme. Des pièces classiques aux créations avant-gardistes, Suzy a su conquérir le public et les critiques. Elle reçut l'œuvre du théâtre pour Ni chair ni poisson de Rudy Geldof et L'annonce faite à Marie de Paul Claudel. À la fin des années 2000, elle reçoit le prix du théâtre pour Chaos debout et lance son spectacle Suzy raconte, dans lequel elle fait piocher au public des petits papiers pour choisir des thèmes autour desquels elle parle de sa vie ou d'autres histoires cocasses. En 2010, elle fait ses adieux à la scène avec Rue des Jonquilles, un émouvant retour sur sa jeunesse. En plus de sa carrière artistique, Suzy était une femme engagée, connue pour son franc-parler, sa passion pour les animaux et son humanité envers tous ceux qu'elle rencontrait. Elle nous a quittés en 2015, laissant derrière elle un héritage immense, jalousement gardé aux archives et musées de la littérature. Je vous propose d'écouter à présent une de nos actrices doyennes, l'étonnante Nicole Wahlberg, qui va nous parler des comédiennes qui l'ont marquée sur nos scènes, et notamment de Suzy Falk.
Et comment oublier la fabuleuse Suzy Falk ? Immense carrière. Elle avait joué Mère Courage de Brecht au Théâtre National. C'était un grand souvenir pour elle. Elle avait une vitalité incroyable. Un soir, après une représentation au Théâtre des Martyrs, on va boire un verre au Corbeau et on parle de performance. Elle dit « Oh, moi, je peux encore danser sur les tables. » Elle avait plus de 80 ans. Hein. Et, poups, un pied sur la chaise, un pied sur la table, et hop, elle se met à tournoyer sous nos applaudissements. Elle aimait aussi continuer à apprendre des poèmes par goût, mais aussi pour entretenir sa mémoire. Elle pouvait, à la demande, nous lire des fables de La Fontaine. Elle les racontait avec délectation. « Suzy, je t'embrasse que de souvenirs à deux. Gros, gros bisous. »
Est-ce que le théâtre belge est reconnu à l'étranger ? Est-ce qu'on dit, voilà, notre cinéma commence à avoir une
bah maintenant, une... oui. Hein.
Voilà, est-ce que les comédiens belges de théâtre sont...
Maintenant, oui.
Oui ?
Oh, bah oui, enfin, je crois. Bah, je ne sais pas, j'ai l'impression.
Moi, j'ai l'impression qu'en Flandre, il y a beaucoup de spectacles qui vont, par exemple, il y a des metteurs en scène flamands maintenant, à Avignon, dans le Hin, des choses comme ça, et que c'est moins le cas du côté francophone quand c'est du théâtre de texte, parce qu'il y a toujours peut-être la rivalité avec la France qui fait que... en tout cas, les spectacles sont moins souvent pris, mais le comédien ou la comédienne... est reconnu si, et oui. C'est pour ça que oui et c'est pour ça qu'il y a un tel succès d'ailleurs des acteurs belges au cinéma.
Mais bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il y a comme différence avec la manière de jouer des Français? Est-ce qu'il y a une différence? Les Belges ont le fait d'être à la croisée. Mais de...
Je crois que ça vient pas de là du tout parce que quand j'étais engagée quand même j'étais engagée dans une troupe pendant 10 ans. Et au début, je me suis demandé si j'allais y rester.
Où ça, en France ?
Oui. Et c'était pas du tout parce que j'ai pas d'accent, mais j'étais belge, donc c'est-à-dire la mangeuse de frites. Je disais 90 au lieu de 90. Je disais ah c'est gay au lieu de dire c'est amusant. Et ça, il y avait une espèce de racisme fort. Et moi, j'ai failli abandonner pour ça. Et c'est parce que le directeur lui-même a dû mettre les choses au clair que je suis restée et qu'après, tout a bien marché. Et en plus, il a écrit les choses pour moi, donc les autres se sont un peu tus. Mais au départ, c'était une sorte de racisme.
Ouais. Mais ça a
contre le belge.
Ça a quand même
on avait un
changé,
accent
ça.
Alors que j'avais pas d'accent du tout. Enfin, on dit des trucs pas comme les autres. Tu vois, on sent la frite, enfin, des trucs cons.
Qui sont vos modèles? Qui sont les grandes figures théâtrales féminines d'hier? Qui sont les comédiennes qui vous ont inspiré? Sylvie Landoit.
Oh, mais quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai été intriguée et très bouleversée par, évidemment, la grande Jeanine Godinas.
Ingrid Edersheim.
J'ai eu la chance de jouer en duo avec Jeanine Godinas, on va dire au début de mon parcours de comédienne. Et Jeanine m'a énormément apporté par son calme. Elle avait un calme, elle était ancrée. Moi, j'étais vraiment une jeune actrice très, très excitée. Je le suis encore un peu maintenant, mais bon, j'ai quand même beaucoup appris. Et notamment au contact de Jeanine. Voilà. De se calmer, de respirer, de se calmer.
Nicole Valbert.
Ben voilà, mes parents n'allaient pas au théâtre et l'école ne m'y a amenée qu'une seule fois. C'était aux Galeries, on y jouait Phèdre. Et j'ai été fascinée par la comédienne qui jouait Aricy, un rôle plutôt ingrat. J'ai appris après que cette comédienne était Jacqueline Beer. J'avais 15 ans, elle devait en avoir 24. Et puis, paradoxalement, Christiane Lenay, comédienne généreuse, de grand talent, de comédie, de boulevard. Et contrairement à ce qu'on croit, un des genres les plus exigeants et difficiles. Mais aussi une grande comédienne dramatique. Oui, ces deux grandes comédiennes, si riches dans leur diversité, elles allient la force et la finesse, oui, sont un exemple pour moi. Et en plus, j'ai eu la chance de partager la scène avec l'une et l'autre.
Rosalia Cuevas.
Christiane Lenain. J'ai connu Christiane, je sortais du conservatoire. Et j'ai été engagée tout de suite par Monsieur Jean-Pierre Rey au Théâtre des Galeries. Et donc, j'ai vécu pendant 10 ans avec cette femme sublime. Quand je dis sublime, sublime dans tous les sens du mot, c'est-à-dire que c'était une femme généreuse, talentueuse, à n'en plus finir, généreuse, tendre. Elle aimait beaucoup les jeunes. Jamais je n'ai eu un mot désagréable de sa part. Au contraire, elle était là la première pour aider, pour te mettre en avant, pour essayer que tout aille bien. Et c'était une femme, c'était une comédienne magistrale. Je veux dire que le public l'adorait. Le monde, enfin la Belgique l'adorait parce qu'elle a eu cette chance. Que ses pièces étaient télévisées généralement. Et donc, évidemment, elle était connue en Belgique. Partout où elle allait, tout le monde la connaissait. Et donc, mais c'était pas une, enfin, c'était une star. Mais elle ne se conduisait jamais en star. Mais jamais, jamais, jamais. Jamais je ne l'ai vue hautaine ou quoi que ce soit vis-à-vis du public ou vis-à-vis de qui que ce soit. C'est une femme qui est toujours de bonne humeur, qui était toujours souriante, qui aimait rire. Voilà. Et ses compagnons, Serge Michel et Jean-Pierre Loriot, ils formaient un trio, mais génialissime. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup appris avec cette femme au théâtre et dans la vie aussi, vraiment.
Valérie Lemaître.
Il y a quand même Jeanine Godinas, hein. Ça c'est sûr que c'était un modèle. Sinon, il faut quand même savoir que moi quand j'ai commencé, c'était une époque où les femmes sur les planches n'étaient pas vraiment considérées comme un homme, donc il y avait beaucoup moins de femmes sur les plateaux. Anne Marève aussi, tiens, voilà, Anne Marève, elle me revient tout d'un coup en tête. C'était une femme qui me fascinait, je dois dire. Surtout sa voix.
Valérie Beauchaud.
Les comédiennes qui m'ont inspirée, bien entendu Jacqueline Beer et Jeanine Godinas. Toutes les deux de façon différente, pour des raisons différentes. Jacqueline, j'avais l'impression d'avoir une espèce de filiation avec elle. Et Jeanine, c'était l'interdit, c'était la roqueuse, quoi. C'était celle qui osait tout. Et ça, ce qu'elle fait toujours d'ailleurs, et ça m'a toujours. Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ça.
Manuela Servet.
Moi, je.
Je veux vraiment rendre hommage à Jacqueline Beer parce que j'ai commencé à être en scène et j'ai eu la chance de jouer avec elle quand je sortais du conservatoire. Elle m'a inspiré mais énormément de choses intéressantes dans le métier, que ce soit sur le plan éthique, que ce soit sur le plan du jeu, que ce soit sur le plan de ce qu'on disait, du regard, des écoutes, du silence. C'est une vraie leçon que d'avoir la chance de commencer à jouer à côté de Jacqueline Beer. Et là, je vous parle d'il y a 25 ans. Voilà, c'est une femme qui a un amour des textes incommensurable. Elle défend ça. Elle défend le fait que nous ne sommes là que comme vecteur entre un auteur et un public. J'espère ne pas la trahir en disant ça, mais je pense qu'elle approuverait que c'est bien ça qu'elle défend. Elle défend aussi les femmes, les actrices, les acteurs, tous le talent. Et donc, il faut... Voilà. Merci à elle.
Véronique Biefner.
Moi, c'est Jeannine Godinas, avec qui j'ai eu la chance de partager la loge à de multiples reprises. Et de voir à la fois la femme et l'actrice, parce qu'elle est magnifique dans les deux rôles, si je puis dire. Et c'était édifiant, voilà. C'était effectivement une espèce de modèle à la fois de jouissance au quotidien de la vie, mais aussi des textes, et c'est très important.
Quel est votre rapport à la critique? Est-ce que c'est quelque chose qui est ou important, ou est-ce que vous les lisez ou pas? Est-ce que c'est pourri, hein, comme question, mais voilà.
Je m'en fiche. Je ne les lis plus depuis que j'ai 30 ans. C'est des frustrés. J'aurais bien voulu faire du théâtre, ils n'ont pas pu en faire, donc ils écrivent contre, en général. Et je les déteste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas besoin de leur avis, en plus.
Oui, c'est ça, mais vous lisez ça, parce que ça touche quand même votre image, votre façon de jouer, est-ce que vous arrivez à garder de la distance par rapport à ça?
J'espère que non, que ça ne change pas la manière de jouer ni le travail, de prendre ça comme un avis parmi d'autres. Voilà, et c'est sûr qu'on ne peut pas toujours être aimé de tous et par tous. Voilà, je me dis que oui, c'est la vie d'un spectateur ou d'une spectatrice est tout aussi à une aussi grande valeur.
Oui, je suis d'accord.
Là, après, souvent, ça passe dans les équipes. Souvent, on s'envoie les papiers. Après, c'est au choix. Moi, je les ai lus souvent. Je me sens d'une fois où la metteuse en scène était atteinte parce que ça n'avait pas été une super critique. Et du coup, elle était hyper déprimée. Et ça, j'avais trouvé ça difficile parce que nous, on devait aller jouer le soir. Et enfin, c'était pas forcément facile d'avoir... Enfin, je sais pas comment dire, que même la chef soit un peu genre que ça l'atteigne, quoi. Je sais pas, moi j'ai la sensation que ça fait toujours quelque chose. Je peux pas nier qu'il y a pas d'impact.
Bien sûr.
Après, il y a un travail de mise à distance, en effet, de regarder les gens qui ont aimé, qui viennent te voir à la fin pour te dire que c'était super. Enfin, il y a toujours, c'est toujours très, il y a toujours plein d'avis pour un spectacle.
Alors parfois il y a des critiques plus maladroites que d'autres, hein, et qui touchent à des choses de l'ordre vraiment de la personnalité, dans leurs critiques du physique, de ce qu'on peut dégager au-delà du rôle, enfin de la partition, et ça c'est parfois douloureux.
Il y a des choses épouvantables. Moi, je me souviens avoir lu une critique, pas pour moi parce que je faisais pas partie du spectacle, mais pour me dire tiens, je me demande bien ce qu'ils disent de ça. Et je l'ai lu, et je ne citerai pas les noms, mais la critique disait d'une comédienne qui jouait, c'était dans Antoine et Cléopâtre, dommage qu'elle ne meure pas plus tôt, disait la critique de Cléopâtre, alors que c'est quand même le texte de Shakespeare qui nous fait mourir Cléopâtre pendant trois quarts d'heure, hein. Et la façon dont la phrase était tournée, c'était comme si on disait « dommage que la comédienne ne meure pas plus tôt ».
C'est d'une extrême maladresse, en effet, oui.
C'est de la méchanceté, parce que c'est une... Pardon. Enfin, non, qu'on ne me dise pas qu'on ne l'a pas fait exprès. Ça ne va pas. Ou alors on n'est pas critique, alors, hein, on écrit convenablement, je ne sais pas, moi. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Et quand je dis que je l'ai hais, je ne l'ai hais pas, hein, c'est pas ça. Mais en plus,
Ça ne se fait
je
pas.
Je fais partie d'un spectacle ou d'un théâtre. Pour l'instant, je joue dans un théâtre où la critique ne met plus les pieds. Il y a 3 salles et c'est comble tous les jours, alors qu'on ne me dise pas que la critique aide à remplir les salles. C'est faux.
Est-ce que même lorsque vous ne jouez pas, vous vous considérez toujours comme une actrice ?
Bah oui.
Oui.
Oui, oui, non, mais je pose la question. J'ai posé la question à 3 actrices l'autre jour et il y en a 2 sur 3 qui m'ont dit non. Donc,
ouais, c'est une bonne question. Je suis pas sûre que je dirais oui. Je sais que j'ai des petites paniques comme ça, ça fait 2 mois que j'ai pas de travail, il n'y a pas forcément beaucoup de travail à l'horizon. Je me dis, oulala, en fait, qu'est-ce qui fait de moi une actrice vraiment? Enfin, je commence à être un peu avec des questions philosophiques. Puis après, j'ai un projet et c'est bon. Je me dis, non, mais je suis actrice. Ça peut venir et repartir comme ça. C'est une confiance assez instable.
Oui, je ne me suis jamais posé la question, mais maintenant que vous me la posez, bah oui.
Moi aussi, oui. Et même dans les moments de doute ou de vide, peut-être que je m'y raccroche.
Oui, c'est ça.
Nous arrivons à la fin de ce 2e épisode sur les actrices de théâtre dans notre petit royaume. Et la matière est dense et passionnante. Il y aura donc un 3e épisode. Dans ce 3e épisode, nous parlerons de l'acteur, de l'actrice comme objet de désir. Nous verrons la manière dont les actrices construisent leurs personnages, la façon aussi dont elles abordent ce fameux tunnel de l'actrice de 50 ans. Nous parlerons de leur milieu social, de l'évolution de l'image de l'actrice et de son rapport au metteur en scène des années 80 jusqu'à aujourd'hui, après le passage de MeToo. Et nous terminerons par la découverte du métier du doublage, où les actrices jouent à la fois des rôles de femmes et des rôles de petits garçons. En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes, ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui.